Première partie, le pari. Chapitre 1. De tous les lieux emblématiques qui constituent le domaine et le bâtiment de la Maison Blanche, tous les bureaux, tous les salons, c'était la colonnade ouest que je préférais. Pendant 8 ans, cette passerelle a encadré mes journées. Un trajet d'une minute à pied, à l'air libre, de la résidence au bureau, aller-retour. C'est là, chaque matin, que me saisissait la première gifle du vent glacial en hiver ou la première bouffée d'air chaud en été. Là que je rassemblais mes pensées, passais en revue les divers rendez-vous qui m'attendaient, affûtais les arguments que j'allais devoir déployer face au scepticisme d'un élu du Congrès ou à l'impatience d'un électeur. Là que je me préparais à affronter tel choix décisif un jour, telle crise lancinante le lendemain. À l'origine, les bureaux de l'exécutif et les quartiers privés de la famille présidentielle étaient réunis sous le même toit, et la colonnade ouest n'était guère plus qu'une petite allée menant aux écuries. Mais quand Teddy Roosevelt s'installa à la Maison Blanche, il jugea qu'un seul bâtiment ne suffisait pas pour accueillir un staff moderne, 6 enfants turbulents, et ne pas devenir fou. Il fit donc construire ce qui deviendrait l'aile ouest et le bureau ovale, et peu à peu, au fil des décennies et des présidences successives, la colonnade telle que nous la connaissons aujourd'hui prit forme. Une parenthèse ouverte sur la roseraie au nord et à l'ouest, la façade massive côté nord, sobre et sans fioritures à l'exception des hautes fenêtres en demi-lune, les majestueuses colonnes blanches côté ouest, telle une garde d'honneur balisant le chemin. En règle générale, je marche d'un pas assez lent. Une démarche hawaïenne, comme dit Michel, non sans une pointe d'agacement parfois. Mais quand je traversais la colonnade, j'adoptais une allure différente, conscient des moments historiques qui s'étaient joués ici, dans ce lieu qui avait vu défiler tant de mes prédécesseurs. Ma foulée s'allongeait, devenait plus nerveuse. Le bruit de mes pas sur les dalles, talonné de près en écho par celui des agents du Secret Service à quelques mètres de distance. Quand j'atteignais la rampe à l'extrémité de la colonnade, aménagée du temps de Franklin Roosevelt pour son fauteuil roulant, je l'imagine sourire aux lèvres, menton levé, fume-cigarette coincée entre les dents, en train de s'échiner à grimper la pente. Je saluais d'un geste de la main le garde en uniforme posté dans l'embrasure de la porte-fenêtre vitrée. Il arrivait qu'ils doivent barrer le chemin à un groupe de visiteurs ébahis de me voir. Si j'avais le temps, j'allais leur serrer la main, leur demander d'où ils venaient. Mais en général, je tournais tout de suite à gauche, élongeais le mur extérieur de la salle du conseil pour me faufiler dans le bureau ovale, par la porte latérale. Je saluais alors mon staff, j'attrapais ma feuille de route de la journée et une tasse de thé, puis je me mettais au travail. Plusieurs fois par semaine, en sortant sur la colonnade, j'apercevais les jardiniers, tous employés par le service des parcs nationaux, à l'œuvre dans la roseraie. C'étaient des hommes pour la plupart assez âgés, vêtus d'un uniforme vert kaki, assorti parfois d'un chapeau mou quand le soleil cognait ou d'un manteau épais quand il faisait froid. Si j'avais quelques minutes devant moi, je m'arrêtais un moment pour les complimenter à propos des parterres qu'ils venaient de planter ou leur demander si la tempête de la nuit précédente n'avait pas provoqué trop de dégâts. Et ils me parlaient de leur travail avec une fierté discrète. C'étaient des hommes plutôt taiseux. Même entre eux, ils communiquaient souvent par un simple geste ou un hochement de tête. Chacun restait concentré sur sa tâche, mais tous évoluaient en un ballet gracieux et parfaitement synchronisé. L'un des plus anciens était Ed Thomas, un grand noir élancé aux joues creusées, qui travaillait à la Maison Blanche depuis 40 ans. La première fois que nous nous sommes croisés, il a sorti un chiffon de la poche arrière de son pantalon pour essuyer ses paumes pleines de terre, avant de serrer la main que je lui tendais, et qu'il a engloutie dans la sienne, striée de veines épaisses et noueuses comme les racines d'un arbre. Je lui ai demandé combien de temps encore il pensait rester à la Maison Blanche avant de prendre sa retraite. « Je ne sais pas, monsieur le Président, » m'a-t-il répondu. « J'aime beaucoup mon travail. Bon, même si les articulations commencent à fatiguer un peu. Mais je me dis que je pourrais encore rester tant que vous êtes là, pour être sûr que le jardin soit bien entretenu. » Oh, ça, il l'était. Les magnolias ombragés qui se dressaient majestueusement à chaque coin, les haies, denses et d'un vert luxuriant, les pommiers sauvages élagués avec un soin minutieux, et les fleurs, cultivés en serre à quelques kilomètres de là, qui nimbaient en permanence ce jardin d'une myriade de couleurs éclatantes. Des rouges, des jaunes, des roses, des violets. Au printemps, c'était une profusion de tulipes serrées les unes contre les autres, tournées vers le soleil. En été, des héliotropes couleur lavande, des géraniums, des lys. À l'automne, des chrysanthèmes, des marguerites et des fleurs des champs. Et toujours, des roses, rouges pour la plupart, mais parfois aussi, des jaunes ou des blanches, fraîchement écloses et toutes plus resplendissantes les unes que les autres. Chaque fois que je traversais la colonnade ou que je regardais par la fenêtre du bureau ovale, j'apercevais ces hommes et ces femmes à l'ouvrage dehors. Ils me faisaient penser à la petite toile de Norman Rockwell que j'avais accrochée dans le bureau, à côté du portrait de George Washington et au-dessus du buste de Martin Luther King. Cinq minuscules silhouettes aux couleurs de peau diverses, des ouvriers en bleu de travail, suspendus par des cordes dans l'azur limpide du ciel pour polir la torche de la Statue de la Liberté. Les personnages de ce tableau, les jardiniers de la roseraie, ces hommes étaient des gardiens, me disais-je, les prêtres silencieux d'un ordre solennel et bienveillant. Et je songeais que j'avais le devoir de mettre autant de cœur et de soin dans mon travail qu'ils en mettaient dans le leur. Au fil du temps, mes va-et-vient sur la colonnade allaient se charger de souvenirs. Il y avait les grands événements officiels, bien sûr, les allocutions devant la horde des caméras, les conférences de presse avec les dirigeants étrangers, mais d'autres moments aussi, dont les témoins étaient moins nombreux. Malia et Sacha qui faisaient la course pour venir m'embrasser dans mon bureau à l'improviste un après-midi, ou nos chiens, Beau et Sunny, qui bondissaient dans la neige, s'enfonçant si profondément qu'ils en ressortaient le museau tout blanc. Quelques passes de football par une belle journée d'automne, quelques instants à réconforter un collaborateur aux prises avec des difficultés personnelles. Ce genre d'image me traversait souvent l'esprit, interrompant mes ruminations du moment. Elle me rappelait combien le temps passe et m'inspirait parfois une sorte de nostalgie, le désir de revenir en arrière et de tout recommencer. Mais pas le matin quand je rejoignais mon bureau, car à ce moment-là, la flèche du temps ne filait que dans une seule direction. Les obligations du jour m'appelaient, je devais me concentrer uniquement sur l'avenir. Le soir, c'était différent. Au moment de regagner la résidence, ma serviette remplie à craquer de dossiers, je m'efforçais de ralentir le pas, voire de m'arrêter. Je prenais le temps de respirer les parfums de terre, d'herbe et de pollen qui flottaient dans l'air, et d'écouter le souffle du vent ou le crépitement de la pluie. Parfois, j'observais les jeux de lumière sur les colonnes, et je regardais l'édifice majestueux de la Maison Blanche, le drapeau qui brillait au sommet du toit sous le feu des éclairages, ou bien encore, je me tournais vers le Washington Monument, dont l'obélisque transperçait la nuit noire dans le lointain, et au-dessus duquel j'apercevais de temps à autre la lune et les étoiles, ou les lumières clignotantes d'un avion qui fendait le ciel. Dans ces moments-là, je songeais avec étonnement au chemin étrange et à l'idée qui m'avait mené jusqu'ici. Je ne viens pas d'une famille politisée. Mes grands-parents maternels étaient originaires du Midwest, de souche irlando-écossaise pour l'essentiel. On pourrait dire qu'ils étaient de gauche, surtout à l'aune des sensibilités de l'époque dans les petites villes du Kansas où ils avaient vu le jour pendant la Grande Dépression, et ils mettaient un point d'honneur à se tenir régulièrement au courant de l'actualité. « Ça fait partie des devoirs de tout bon citoyen informé », me disait ma grand-mère, que tout le monde appelait toute, diminutif de toutou ou mamie en hawaïen, en me jetant un coup d'œil par-dessus son exemplaire matinal du Honolulu Advertiser. Mon grand-père et elle ne se réclamaient d'aucune tendance idéologique ou partisane à proprement parler, au-delà de ce qui relevait à leurs yeux du bon sens le plus élémentaire. Ils se préoccupaient essentiellement de leur travail. Ma grand-mère était vice-présidente des comptes en dépôt fiduciaire dans une banque locale, mon grand-père représentant en assurance vie, des factures à payer et des quelques distractions que la vie était susceptible d'offrir. Il faut dire aussi qu'ils vivaient sur l'île d'Oahu, où rien ne semblait jamais d'une urgence capitale. Après avoir vécu plusieurs années dans des endroits aussi divers que l'Oklahoma, le Texas et l'État de Washington, ils avaient fini par s'installer à Hawaï en 1960, un an après que l'archipel eut accédé au statut d'État. Un vaste océan les séparait désormais des émeutes, des manifestations et autres turbulences de l'époque. La seule question de nature politique dont je me souvienne de les avoir entendus discuter durant mon enfance avait à voir avec un bar de plage. Le maire de Honolulu avait fait démolir la buvette préférée de Gramps pour rénover le front de mer à la pointe de Waikiki. Gramps ne lui a jamais pardonné. Ma mère, en revanche, Anne Dunham, avait des opinions bien arrêtées, et elle en avait beaucoup. Enfant unique, elle s'était rebellée contre les conventions au lycée, lisant les poètes beat et les existentialistes français, partant en virée à San Francisco avec une amie pendant plusieurs jours sans prévenir personne. Quand j'étais petit, elle me parlait des marches pour les droits civiques et m'expliquait pourquoi la guerre du Vietnam était un désastre dans lequel le pays s'était fourvoyé. Elle me parlait du mouvement pour l'émancipation des femmes, l'égalité des salaires très bien, mais de là à ne plus se raser les jambes, elle était déjà moins convaincue, et de la guerre contre la pauvreté, initiée par le président Johnson. Quand nous sommes partis vivre en Indonésie avec mon beau-père, elle a pris soin de m'instruire sur les péchés de la corruption gouvernementale. « C'est du vol pur et simple, Berry !» Même si tout le monde semblait s'y livrer. Plus tard, l'été de mes 12 ans, alors que nous passions nos vacances en famille à traverser les États-Unis pendant un mois, elle a tenu à ce que nous regardions tous les soirs les auditions sénatoriales du Watergate, qu'elle agrémentait de ses propres commentaires sans discontinuer. « À quoi tu veux t'attendre de la part d'un McCarthyste ?» Du reste, elle ne s'intéressait pas qu'aux gros titres de l'actualité. Un jour, ayant appris que je faisais partie d'une petite bande qui malmenait un gamin à l'école, elle m'a fait asseoir devant elle, les lèvres pincées, l'air consterné. « Tu sais, Berry, » m'a-t-elle dit, c'était le surnom que me donnaient mes grands-parents et elle quand j'étais petit, souvent abrégé en Bear, mais écrit B-A-R. « Il y a des gens dans la vie qui ne pensent qu'à eux. Ils se fichent de ce qui arrive aux autres du moment qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Ils rabaissent les autres pour se sentir importants. Et puis il y a des gens qui font l'inverse, qui sont capables de se mettre à la place des autres et qui veillent à ne jamais se comporter d'une façon qui pourrait leur faire du mal. Alors, a-t-elle conclu en me regardant droit dans les yeux, quel genre de personne veux-tu être ? J'étais mortifié. Sa question m'a travaillé pendant longtemps, et c'était précisément son but. Pour ma mère, le monde offrait sans cesse des occasions de parfaire son instruction morale. Mais jamais, à ma connaissance, elle ne s'est impliquée dans une campagne politique. Comme mes grands-parents, les professions de foi, les doctrines et les grandes déclarations ne lui inspiraient que de la méfiance, et elle préférait exprimer ses valeurs dans un cadre plus modeste. « Le monde est compliqué, Bert. C'est pour ça qu'il est intéressant. » Affligée par la guerre en Asie du Sud-Est, elle finirait par passer la majeure partie de son existence là-bas, s'imprégnant de la langue et de la culture, montant des projets de microfinance pour les plus défavorisés, longtemps avant que la tendance du microcrédit ne s'impose dans les politiques de développement international. Horrifiée par le racisme, elle épouserait non pas une, mais 2 fois un homme d'une origine ethnique différente de la sienne, et prodiguerait toute sa vie une affection sans borne à ses 2 enfants métis. Révoltée par le carcan dans lequel la société enfermait les femmes, elle divorça de ses 2 maris dès lors qu'ils tentèrent de lui imposer leur autorité ou qu'ils déçurent ses attentes. Décida de bâtir seule la carrière professionnelle de son choix, d'élever ses enfants selon ses propres principes d'éducation, bref, d'agir comme bon lui semblait, sans rien demander à personne. Dans le monde tel que le concevait ma mère, le privé et politique n'étaient pas un vain mot, même si elle n'était pas du genre à brandir ce type de slogan. Ce qui ne veut pas dire qu'elle manquait d'ambition pour son fils. En dépit de leurs difficultés financières, mes grands-parents et elle m'envoyèrent à Punahou, la meilleure école privée de Hawaï. L'idée que je ne fasse pas d'études supérieures n'était même pas envisageable. Mais personne dans ma famille n'aurait jamais imaginé que je sois élu un jour à des fonctions officielles. Si l'on avait interrogé ma mère à ce sujet, elle aurait pu concevoir à la rigueur que je finisse à la tête d'une grande institution philanthropique comme la Fondation Ford. Mes grands-parents, eux, auraient adoré me voir devenir juge ou ténor du barreau comme le héros de la série Perry Mason. « Une langue bien pendue comme ça, autant que ça serve à quelque chose », disait Gramps. Comme je ne connaissais pas mon père, son avis sur la question comptait peu. Je savais vaguement qu'il avait travaillé pour le gouvernement kényan pendant un temps, et quand j'avais 10 ans, il était venu du Kenya, passer un mois avec nous à Honolulu. Ce fut la première et la dernière fois que je le vis. Par la suite, j'eus sporadiquement de ses nouvelles par les lettres qu'il m'écrivait sur ces fines feuilles prépliées de papier bleu de la poste aérienne qu'on pouvait adresser et cacheter sans les glisser dans une enveloppe. « Ta mère m'a dit que tu envisageais de faire des études d'architecture », m'écrivait-il par exemple. « Je trouve que c'est un métier qui a une vraie dimension pratique et qu'on peut exercer n'importe où dans le monde. » Avec ça, je n'étais guère avancé. Quant à tous les autres, au-delà de la sphère familiale, eh bien, le visage que je leur montrerais pendant la majeure partie de mon adolescence n'était pas celui d'un grand homme d'État en herbe, mais plutôt celui d'un étudiant nonchalant, d'un joueur de basket à peu près aussi passionné que dépourvu de talent, et d'un osseur impénitent, toujours prêt à faire la fête. Militer dans une association étudiante, intégrer les Eagle Scouts ou décrocher un stage au cabinet du député local, très peu pour moi. Durant toutes mes années de lycée, mes amis et moi n'avons guère discuté d'autre chose que de sport, de filles, de musique et de combines pour se mettre la tête à l'envers. Trois d'entre eux, Bobby Titcomb, Greg Orme et Mike Ramos, sont restés parmi mes amis les plus proches. Aujourd'hui encore, il peut nous arriver de pleurer de rire pendant des heures en évoquant certaines anecdotes de notre jeunesse dissolue. Quelques années plus tard, ils s'investiraient corps et âme dans mes campagnes, avec une loyauté dont je leur serais éternellement reconnaissant, s'évertuant à défendre mon bilan avec autant de verve que n'importe quel chroniqueur de la chaîne d'information MSNBC. Mais à certains moments, au cours de mes deux mandats présidentiels, quand ils me voyaient m'adresser à une foule immense, par exemple, ou passer en revue de jeunes Marines au garde-à-vous sur une base militaire, je lisais aussi sur leur visage une certaine stupéfaction, comme s'ils avaient du mal à croire que cet homme grisonnant en costume-cravate était bien le même que l'ado mal dégrossi qu'ils avaient connu autrefois. Lui ? Mais comment un truc pareil a-t-il pu arriver ? Devait-il se dire. Et si mes amis avaient eu l'idée un jour de me poser directement la question, je ne suis pas certain que j'aurais su quoi leur répondre.